Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
La conférence de Yalta.
Yalta marque une frontière d'une exceptionnelle puissance symbolique. Ici se termine le règne de la Méditerranée. Tout le règne des nations européennes se termine à Yalta, et à Yalta commence le règne des deux nouveaux grands qui déterminent le partage du monde, qui déterminent la définition de l'univers, le géant russe, le géant américain.
Il y a une mythologie de Yalta qui n'existe guère qu'en France et qui doit beaucoup à l'époque gaulliste. Et pendant l'époque gaulliste, un best-seller, celui d'Arthur Comte, on vient de l'entendre, il parlait le 9 février 1965. Il y aurait eu un partage de l'Europe médiane et centrale destiné à durer. Ensuite, la France, qui n'avait pas été invitée, et a pu s'inventer un rôle dans la nouvelle dramaturgie entre les deux grands, à condition de se tenir à équidistance de l'un et de l'autre. Depuis, le mot Yalta est entré dans notre vocabulaire. Fogiel et Ardisson se retrouvent-ils la semaine passée sur un même plateau de télé pour parler d'une émission qui emprunte d'ailleurs notre générique? C'est aussitôt un nouveau Yalta. Et quand les chroniqueurs en mal de copie ajoutent que cette rencontre au sommet s'est tenue sous l'égide de l'ONU, ils n'ont pas complètement tort. La conférence de Crimée a en effet permis d'avancer dans la future organisation des Nations Unies. Pour le reste, le caractère définitif qu'on lui prête est loin d'être vérifié. Yalta, c'est un maillon dans une chaîne de transactions diplomatiques qui a commencé à Téhéran dès 1943 et s'achève en point de suspension à Potsdam l'été 45. Et en effet, au bout de ce processus, 14 frontières sont modifiées sur près de 8000 km, mais le rideau de fer ne tombe pas tout de suite entre les deux Europes.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Michel Fouché, bonjour.
Bonjour.
Géographe, ambassadeur, grand spécialiste de l'étude de l'obsession des frontières. C'est le titre d'un de vos livres chez Perrin, Michel Fouché. L'Europe est un faisceau de frontières. La frontière, c'est ce qui enveloppe les États et les nations, c'est ça?
Oui, mais ça peut se déplacer, surtout quand elles sont devenues des fronts.
Alors, le front, est-ce qu'on peut dire un mot de la situation un peu en amont de Yalta, en 1943-1944, face à l'Allemagne hitlérienne? Il y a une alliance ancienne, fondée sur l'amitié, mûrie, celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne, et puis une alliance qui s'est adjointe et où règne la méfiance. On ne peut pas dire que Staline d'un côté, Roosevelt et Churchill de l'autre se prêtent toujours des intentions aimables, non?
Ah oui, ça va exploser à Yalta. Et d'ailleurs, quand Roosevelt arrive sur le croiseur Quincy à Malte, il prend soin de ne pas voir Churchill, pour ne pas donner l'impression à Staline, qui avait évidemment ses espions à Malte, qu'il y ait une ligue contre lui. En fait, il avait besoin de Staline, aux dépens de Churchill.
Alors, se connaissent-ils ces trois hommes? Ils ont fait connaissance à Téhéran en novembre 1943. Staline ne quitte Moscou que s'il est protégé par les services soviétiques dans les zones où il peut résider. Et une rencontre avait été envisagée à l'automne 1944, elle aurait été rendue nécessaire par la conduite de la guerre, mais à l'automne 1944, Roosevelt, il était en campagne électorale. Et je prends un petit peu de recul. Je me place avec vous, Michel Fouché, en octobre 1944. Une rencontre a lieu entre Churchill seul, donc, et Staline, et cette rencontre a lieu évidemment à Moscou, puisque Staline n'a pas l'intention de se mettre à la disposition des écoutes et des services secrets de ses alliés. Et ça donne ceci.
Le dialogue qui suit est rapporté par Winston Churchill lui-même dans ses mémoires. Le Kremlin, 9 octobre.
Réglons nos affaires dans les Balkans. Vos troupes sont en Roumanie et en Bulgarie. Que diriez-vous d'avoir la haute main à 90% en Roumanie et d'avoir, nous, à 90% les mains libres en Grèce, et de se mettre d'accord sur un pourcentage de 50-50 en Yougoslavie?
Pendant que l'on me traduisait, j'ai écrit sur un bout de papier. Roumanie, Grèce, Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie. Il y avait un moment de silence. Staline a sorti un stylo, écrit V sur la feuille et me l'a rendu.
Les historiens de demain diront que nous avons réglé cyniquement l'avenir d'une grande région du monde sur ce bout de papier. Faut-il le brûler ?
Non, gardez-le.
D'expérience de géographe et pas seulement d'historien, vous diriez, Michel Fouché, que c'est viable comme ça, ces calculs, 90, bah écoutez, 10, 50, 50
ben c'est exactement ce qui s'est passé, puisque la Roumanie et la Bulgarie ont été intégrées dans le bloc soviétique. La Yougoslavie a lutté pour un statut de non-aligné et la Grèce est restée dans le camp occidental. Les 10%, je pense que c'est le parti communiste grec que Staline a sacrifié pour que ça passe de 90 à 100%. Et ensuite, à Yalta, il va rappeler à Churchill qu'il est resté neutre au moment où les troupes britanniques s'en sont pris aux partisans communistes et les ont éliminés, et qu'en revanche, il voulait la même neutralité sur la Pologne.
Parce que entre cette rencontre de Moscou d'octobre et la rencontre de Yalta de février, en effet, il y a eu un voyage assez aventureux de Churchill à Athènes qui est venu soutenir les troupes libératrices anglaises et tenter d'imposer la loi anglaise aux partisans communistes qui étaient dans la ville.
Qui étaient dans la ville, bien entendu. Mais ça, c'est la vieille obsession britannique. C'est une thalassocratie. Donc la Méditerranée et puis la Baltique, c'est-à-dire la Pologne et le Danemark.
Alors la Pologne, un mot quand même de la situation en Pologne dans les derniers mois de 1944. Les Polonais ont un gouvernement en exil qui est logé à Londres.
Oui.
Et Churchill est reconnaissant à ce gouvernement polonais d'agir. Et d'ailleurs, il a fait la guerre pour la défense de la Pologne, d'une certaine manière. Tandis que Staline, lui, à la même époque, il faut quand même le rappeler, au nom du pacte germano-soviétique, s'est opposé au gouvernement polonais, a envahi une partie de la Pologne. Alors, qu'est-ce qu'il demande comme frontière en 43, Staline, en matière polonaise?
Je crois que le Staline a une vision extrêmement classique de la sécurité de la Russie. J'insiste parce que l'Union soviétique est une des formes de la Russie après la forme impériale tsariste, et a considéré que tous les malheurs de la stratégique de la Russie étaient liés non pas à la Pologne, mais passaient par la Pologne. Corridor d'invasion dans la plaine germano-polonaise. Je rappelle quand même que Minsk a été en Biélorussie détruit 14 fois. Donc il veut absolument un glacis protecteur. Et donc il ne cédera pas sur la Pologne. Et la meilleure façon d'avoir un glacis protecteur, c'est d'empêcher le gouvernement en exil de Londres de revenir à la faveur de futures élections soi-disant libres, et de mettre en avant le gouvernement provisoire de Lublin.
Le sien.
Lublin, c'est quasiment à la frontière orientale.
Donc en 1943, ils rompent d'ailleurs avec le gouvernement polonais en exil. Et avant même Yalta, les autres alliés, mais Churchill aussi, accepte que la Pologne glisse vers l'ouest.
Oui, ça, ce sont les règlements discutés à Téhéran.
Donc à la fin 43.
Au moment où, à Téhéran, on parle essentiellement du débarquement allié en Normandie, que Staline veut voir accélérer au printemps 44 et non pas en juin, pour éviter que l'effort de guerre allemand pour qu'il soit fixé à l'ouest. Parce que sa crainte, il occupe déjà la Pologne complètement, et les troupes, juste avant Yalta, les troupes sont déjà sur l'Oder. Et Churchill était en désaccord déjà avec les États-Unis, parce qu'il considérait que si les Alliés lançaient l'opération Overlord très vite, Staline aurait les mains libres, puisque l'armée allemande aurait été fixée, pour envahir les Balkans. On retrouve toujours ce jeu à trois dimensions qui va surplomber les 7 jours de négociations à Yalta.
Avant que les 7 jours ne commencent, il faut dire aussi que les Américains sont demandeurs, eux aussi, d'un front supplémentaire. Ils voudraient que l'Union soviétique attaque le Japon à l'est.
Oui, et c'est ce que Roosevelt. Roosevelt avait deux objectifs, les Nations Unies et l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon. Il va obtenir les deux Pour le Japon, il n'y a pas de difficulté, à ceci près qu'il y a un prix à payer, hein, qui est, pour Staline, la récupération de la moitié sud de Sakhalin et les quatre îles Kouriles.
Alors voilà, les choses sont sur la carte et les protagonistes arrivent. Vous parliez du croiseur qu'avait emprunté le président Roosevelt. Nous sommes dans la station balnéaire fameuse de Crimée.
Dans cette somptueuse résidence d'été, arrivent successivement les ministres des Affaires étrangères d'Amérique et d'Angleterre. Monsieur Stettinius, puis Monsieur Eden. Monsieur Churchill entre à son tour. Miss Sarah Churchill a accompagné le premier britannique. Monsieur Molotov et Monsieur Stettinius pénètrent dans la salle de la conférence. Puis le maréchal Staline vient rejoindre ses hôtes. Et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre. Les photographes et les opérateurs sont prêts et les trois sourient devant l'objectif.
Pourquoi Yalta? Peut-être parce que le climat est doux, puis on a répondu tout à l'heure en ajoutant que Staline voulait être protégé.
Mais surtout, il n'aimait pas l'avion, donc il est venu en train. Protégé en train blindé de Moscou à Yalta. Et les deux autres sont venus en avion de nuit de Malte jusqu'à l'aéroport de Saki en Crimée.
Jean Laloy dit que Roosevelt a des difficultés à imaginer ce qu'est vraiment l'Union soviétique et ce qu'est vraiment son partenaire. Il n'imagine pas que logé par Staline, il soit écouté.
Écoutez, ça ne les empêchait pas d'être assez bavards, ce qui fait que Staline, comme à Téhéran d'ailleurs, avait à l'avance toutes les positions de négociation, mais surtout a eu la confirmation de ce qu'il avait appris à Téhéran, c'est des désaccords fondamentaux entre Roosevelt et Churchill, qui n'avaient pas du tout les mêmes buts, encore une fois.
Alors expliquez, les buts de Roosevelt, les Nations Unies, l'Extrême-Orient,
le Japon. Et pour Roosevelt, la Pologne est un point secondaire, je cite. Pour Churchill, la question centrale, c'est l'organisation de l'Europe après-guerre, c'est le statut de la Pologne. Pour lui, la clé de l'ordre européen d'après-guerre, puisque Yalta est consacré à la préparation d'une déclaration sur l'Europe libérée, il n'a aucun doute sur l'issue, c'est ce qui l'intéresse, c'est la suite, c'est-à-dire l'organisation, en gros, de l'Europe du Nord, hein, de la plaine, la grande plaine germano-polonaise, et donc un gouvernement de coalition avec le gouvernement de Londres en exil au pouvoir en Pologne, ce qui n'est évidemment pas du tout dans les intentions. Et puis la question de Berlin, qui arrive le premier à Berlin?
Et qu'est-ce qu'on fait de l'Allemagne? Est-elle démembrée? Reste-t-elle unie?
Là, il y a plusieurs schémas.
Possiblement. Vous avez vu que toute la presse en parle. Le camarade Poutine a déniché un groupe de bronze de 6 mètres de long et de 3 mètres de haut qui était dissimulé depuis une dizaine d'années et qui représentait les trois protagonistes de Yalta et à l'occasion des cérémonies qu'il organise dans la péninsule de Crimée. Ou ne viennent pas d'ailleurs d'invités occidentaux, il a dévoilé ce chef-d'œuvre de sculpture. Roosevelt est au centre. C'est-à-dire que Staline, qui est à droite sur le groupe, il a installé Roosevelt comme un arbitre entre Churchill et lui.
Roosevelt va jouer, d'abord Roosevelt, c'est son quatrième mandat, il mourra quelques semaines plus tard. Il est vieilli, il est fragile. Staline connaît son état de santé et sait qui va lui succéder, le vice-président Truman, qui est moins complaisant. C'est confirmé par Beria. Et par conséquent...
Alors Beria, attendez, Beria le père.
Le père.
Mais alors le fils Beria, dites-nous un mot quand même.
Le fils Beria était chargé directement par Staline de faire quelque chose que Staline lui a dit que c'était répréhensible mais c'était nécessaire aux intérêts de l'État. C'était d'espionner les logements des deux délégations. Ça a commencé à Téhéran, ça a évidemment continué au palais Livadia puisque la délégation américaine était logée sur le lieu même de la conférence.
Mais on quitte les placards, revenons à la table.
Bah, la table, c'est 7 jours de négociation. Donc, on commence. C'est une ouverture par Roosevelt qui dit que les électeurs américains n'accepteront pas de laisser des troupes en Europe. Ça commence comme ça, comme en 1919. et qui dit que son objectif, c'est le Japon. À partir de là, les jours suivants, on passe des Nations Unies à la Pologne. Et comme le sujet le plus difficile pour Churchill et le plus important pour Staline, c'est le Japon, on commence à parler des Nations Unies.
On change de pied comme ça,
on change
si c'est
de pied en permanence, et ensuite on engrange un succès, ça permet d'obtenir des concessions sur le point suivant.
Alors on va en venir dans un instant en conclusion, mais chantons quand même les mérites du soleil de Crimée. Voici une chanson de l'époque de la guerre civile, c'est, excusez du peu, un texte de Mayakovsky qui explique que pour faire craquer la colonne vertébrale des ennemis, rien ne vaut mieux que la Crimée.
Лите ребятные, лезли из шар, дрались голодные в ране и в шар. Серые шлемы с красной звездой, белые раны крикнули «Стой!» Били Деникина, били Мотко, Анжелю Заваш, дорогим огнем. Космос проломанный, Крыма хребет, Красная кресло в кроме побед, Русу проломанный Крыма хребет, Красная кресло в кроме побед. Бани сливала в победу растя, Сердце рабочих, сердце крестьян, Первой тревогой с наших лизов, Сто миллионная станет на зон. Красных присяг, слава будённых пойдёт на рычаг. Помня принятие красных присяг, слава будённых пойдёт на рычаг.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La presse anglo-américaine, aujourd'hui encore, consacre aux résultats de la conférence de Yalta d'abondants commentaires. Aucun de ces articles ne semble mettre en doute l'efficacité des décisions qui ont été arrêtées par les trois pour préparer au monde de demain la longue période de paix à laquelle aspirent tous les peuples. Il est dit dans ce document que l'aide que les trois sont prêts à accorder conjointement aux peuples libérés d'Europe consistera entre autres choses à constituer des autorités gouvernementales provisoires largement représentatives de tous les éléments démocratiques de ces populations. Si dans l'esprit des trois il devait s'agir de recréer ce concert européen qui fut aux environs de 1830 comme un syndicat intermittent des représentants des grandes puissances cherchant à imposer ses convenances aux petits États, l'expérience serait vouée à l'échec. Ce n'est pas en imposant aux États secondaires une subordination même provisoire aux volontés des grandes nations que l'on créera les conditions favorables à l'instauration de la sécurité permanente dont rêvent aujourd'hui les peuples.
Pour parler de la conférence de Yalta, c'était il y a 70 ans, l'invité de la marche de l'histoire, Michel Fouché, géographe, diplomate, on peut dire l'importance de la première déclaration dans les conclusions de Yalta, déclaration sur l'Europe libérée, qui était commentée ici par le chroniqueur diplomatique de la Radio Nationale, René Massip, qui s'inquiétait d'un ordre qui aurait pu ressembler à celui de Vienne, 1815, qui aurait été figé, parce que les démocraties cherchaient à établir, est-ce que c'était une fédération, est-ce que c'était une ligne entre l'Allemagne et la Russie soviétique, deux pays démocratiques.
Oui, c'est bien l'intention, hein, sur la base d'élections libres. Et donc, Staline d'ailleurs dit sans vergogne à ses interlocuteurs qu'il veut une Pologne libre, puissante et indépendante.
Alors ça se fait comment ça?
Parce que, souvenez-vous, par des élections.
Il y a un gouvernement communiste à Lublin et il y a un gouvernement polonais en exil à Londres.
Alors ça se fait par une formule ambiguë d'un accord sur un gouvernement provisoire d'unité nationale. Et donc, plus tard, une quinzaine de délégués du gouvernement de Londres sont invités par Staline à venir à à Varsovie avec des sauf-conduits. Ils sont immédiatement arrêtés par le NKVD, transférés à Moscou, et le chef de la délégation et le conseiller militaire seront assassinés en prison. Donc il n'y aura pas d'élection libre, mais ça s'était déjà passé en Roumanie avec Wyszynski. Donc c'est là que Churchill comprend, lui, il est parfaitement lucide, que Staline, en fait, entend véritablement contrôler politiquement un territoire qu'il contrôle déjà complètement au plan militaire.
Churchill a davantage de sentiments que Roosevelt que la paix ne viendra pas avec la fin de la guerre.
Il est, vous savez, le 6 mars 1946, c'est le fameux discours de Fulton, sur le rideau de fer. Donc il a tout de suite compris ce qui était en train de se passer. Simplement, il avait sauvé la Grèce, il va sauver le Danemark, et il aura une zone d'occupation dans le nord de l'Allemagne. Il voulait le sud, mais Roosevelt prend le sud, et la France obtient une zone d'occupation prise sur la partie des Alliés. Et donc, il a bien compris tout de suite qu'il y avait un piège à Yalta.
Donc, la situation...
Mais il n'est pas soutenu par Roosevelt.
La situation dans les pays de l'Est, amis ou vaincus, est évolutive après Yalta. L'esprit de Yalta, dites-vous, ne dure qu'un mois.
Ça dure, l'esprit de Yalta, c'est-à-dire une sorte de compromis... et coopération va buter sur la création d'un gouvernement fantoche en Roumanie par Wyszynski. Ça, c'est fin mars, c'est complètement en violation de la déclaration. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin.
Oui, Wyszynski et les soviétiques arrivent chez le jeune roi Michel, armé d'ailleurs. Le roi leur demande de déposer les revolvers sur un plateau en argent qu'il aurait tendu, mais enfin il est obligé de céder. Et qu'est-ce que dit Yalta explicitement du sort de l'Allemagne? Vous avez parlé des zones d'occupation, la France va disposer d'une zone d'occupation, mais est-ce qu'à terme l'Allemagne doit être démembrée?
Ça n'est pas un sujet qui est évoqué directement, parce que les troupes allemandes n'ont pas encore franchi l'Oder. Et donc l'enjeu c'est Berlin. Et Staline va tout faire pour masquer que son objectif c'est Berlin. Son objectif à Berlin, il est d'abord symbolique, c'est le Reichstag. Comme Königsberg, le cœur du militarisme prussien, complètement détruit. Deuxième objectif symbolique, trophée de guerre, c'est le Reichstag, mais aussi l'Institut de physique nucléaire de Dahlem, dans le sud-ouest. Et il ne sait pas que les savants ont déjà été transférés sur la forêt noire. Et donc, la dernière décision de la conférence de Yalta, c'est l'établissement d'une ligne de communication entre Eisenhower, qui va conduire Overlord, et la Stavka, l'état-major. Et en fait, Staline accepte cette ligne de communication, qu'il contrôle complètement, qui va lui servir, en fait, à enfumer, si je puis dire, Eisenhower, en lui faisant croire que Berlin n'était pas un objectif central. Alors qu'en réalité, c'est l'objectif central. Il ne veut pas que les Américains arrivent les premiers à Berlin.
Alors, un chapitre
et ils se mettent d'accord sur un point de rencontre des deux forces armées sur l'Elbe à Torgau.
Un chapitre sur l'Europe libérée, un chapitre lui aussi avec des points de suspension sur l'Allemagne, et puis le chapitre à quoi tenait Roosevelt sur l'organisation mondiale. Alors, on n'est pas d'accord encore à Yalta sur la manière dont on va établir le fonctionnement de l'ONU, établir le droit de veto au futur Conseil de sécurité, répartir les votes des uns et des autres. Yalta ne clôt pas non plus ce chapitre.
Yalta va quand même... D'abord, Staline va accepter le principe d'une organisation des Nations Unies, un système de conseil de sécurité. Simplement, il obtient que l'Union soviétique ait trois voix. La fédération de Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, au prétexte que l'Angleterre pourrait compter sur les voix du Commonwealth. Donc il veut équilibrer ça.
C'est intéressant ce que vous dites quand on considère la situation actuelle. Donc l'Ukraine dit, depuis l'origine de l'ONU, on avait un siège au nom de l'Ukraine. Minsk, la Biélorussie, dit, oui, on avait un siège avant même d'être formellement indépendant. Et c'est d'ailleurs peut-être à Minsk que se réunirait le président ukrainien, le président russe, s'il le veut bien, le président français et la chancelière allemande.
Avant le sommet à 4 de Minsk, en principe mercredi, Poutine, Porochenko, Hollande et Merkel censés se retrouver à la même table. Mais le président russe pose ses conditions, que tous les principaux points de litige entre Ukrainiens et Russes soient réglés d'ici là. Sinon, c'est clair, ce sera niet, Poutine restera à Moscou.
Michael Thébault, ce matin sur France Inter, vous feriez volontiers, Michel Fouché, un rapprochement entre l'attitude russe d'aujourd'hui et l'attitude soviétique il y a 70 ans?
Je crois que les fondamentaux stratégiques russes n'ont pas changé. Le discours de Lavrov hier à la Verkunde de Munich est très intéressant.
Ministre russe des Affaires étrangères.
Très intéressant parce qu'il il dit que tous les problèmes sont liés à la volonté de domination des États-Unis sur l'Europe depuis 25 ans. Donc il y a toujours cette vision un peu impériale, mais contrariée, et la recherche d'un cordon sanitaire. Or maintenant, l'OTAN, dans quatre pays, jouxte la Russie. Je crois que la démarche française et allemande de rappeler que c'est pas notre position de favoriser l'intégration de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique est la bonne. La solution finlandaise ou autrichienne ont parfaitement fonctionné et c'est pas contradictoire avec la démocratie. Donc là, on est plus dans le 50-50 stratégique, mais pourquoi pas. Simplement, je crois qu'on a intérêt à essayer de comprendre les permanences, les invariants de la pensée stratégique et géopolitique russe. Ce n'est pas pour les excuser, mais enfin, ces gens ont aussi des perceptions et des intérêts qui sont légitimes. Certains d'entre eux sont légitimes, il faut les prendre en compte, on ne l'a pas fait assez.
Oui, d'accord, mais avec Staline... Sauf quand on était trop idéaliste, on savait à quoi s'attendre avec Poutine.
Staline, il nous a permis de vaincre Hitler et le nazisme quand même. Hein, c'est la prise de Berlin qui a mis fin à la guerre. Donc simplement, pour nous Français, c'était un allié facile parce qu'il était lointain. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est comment faire comprendre, c'est ce qu'essaye de faire Mme Merkel aujourd'hui à Washington, faire comprendre que, quelle que soit la nature des relations avec la Russie, c'est un voisin. On ne choisit pas ses voisins, on choisit ses amis. On ne choisit pas ses voisins. Alors que vu de Washington, c'est un terrain de confrontation.
Merci à vous, Michel Fouché. Je renvoie à vos livres, L'obsession des frontières, La bataille des cartes, un livre plus ancien, Fragments d'Europe, où on voit le nombre de champs de bataille qui se sont succédés dans ces zones de Crimée et d'Ukraine dont on parlait aujourd'hui avec vous. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, Franck Oliva, Frédéric Martin et Linka Negulesco pour la préparation. À la technique, Serge Viguier. Et quel est le programme de la Tête au Carré, selon Mathieu Vidard?
Eh bien oui, on repart sur les sentiers de l'évolution, Jean, pour un second volet de notre dossier sur la question.
Et moi, je voulais annoncer que la séance était de nouveau ouverte. Nous restituons, figurez-vous, Michel Fouché, régulièrement au Théâtre du Vieux Colombier, à Paris, avec des comédiens du français, Éric Genovese, Jérôme Pouli, Pierre-Louis Calixte, Michel Favori, des débats parlementaires du bon vieux temps. Et notamment, ce sera le lundi 16 février, lundi prochain, la loi de 1825 sur le sacrilège pendant la Restauration. Vous pouvez trouver sur notre site toutes les indications nécessaires pour vous inscrire en temps et heure, lundi 16 à 20h au Théâtre du Vieux Colombier.